Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Ce 18 février, nous fêtons Sainte Bernadette. Alors, on va commencer notre entretien hebdomadaire en nous replongeant dans ce que nous avons vécu il y a une semaine, le 11 février, la fête de Notre-Dame de Lourdes. Une très belle fête, votre premier 11 février dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. C'est important d'y revenir parce que c'était vraiment une très belle fête avec 15 000 pèlerins, vraiment beaucoup de joie et d'émotion, de ferveur dans le sanctuaire de Lourdes pour ce 11 février. Comment l'avez-vous vécu ?
Eh bien, avec les sentiments que vous venez de dire, joie, émotion, ferveur, j'étais très très impressionné par les foules qui étaient là, beaucoup de gens, et beaucoup de gens paisibles, souriants et heureux de revenir à Lourdes. Un peu le sentiment qu'il y a eu beaucoup de frustration pendant la période Covid et les inquiétudes qui vont avec ou qui allaient avec, et que des gens étaient là, tapis derrière le mur, prêts à bondir, puis le mur est tombé et tout le monde a bondi à la fois, est arrivé en même temps. Et ça faisait une assemblée, une foule absolument impressionnante pour la procession mariale du 10 au soir. C'était déjà extrêmement impressionnant. Et puis la messe à la basilique Saint-Pédis, alors là, c'était magnifique, magnifique, magnifique. J'ai découvert cette assemblée en entrant dans la basilique pour me préparer. Et j'ai été ému aux larmes de voir une telle foule rassemblée dans Saint-Pédis, en train de chanter, de se mettre en place, voilà. Et tout ça dans beaucoup de sérénité. La messe était fort belle derrière, très priante, avec comme on sait faire à Lourdes, de beaux chants, d'assemblées. Du calme, les choses sont rodées, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas d'énervement, la liturgie se déploie paisiblement, telle qu'elle est prévue, et tout ça est au service à la fois de la prière des pèlerins et puis de la louange de Dieu pour ce pourquoi on est là, quoi.
C'était aussi le terme des journées de février avec les directeurs de pèlerinage qui sont venus pendant 2 jours préparer le pèlerinage qu'ils organiseront avec leur groupe ou leur diocèse durant l'année 2023. Vous avez eu l'occasion de les rencontrer, peut-être de passer du temps avec ces directeurs de pèlerinage ?
Alors beaucoup, hein, j'étais très très présent aux différents moments des journées, ce qu'on appelle les journées de Lourdes. J'y ai donné l'une ou l'autre communication, participé à une table ronde, écouté des conférences, partagé des moments de convivialité. J'ai déambulé plusieurs fois dans le village où les stands qui étaient à côté. Voilà, donc beaucoup beaucoup parlé avec beaucoup de gens. Et notamment beaucoup d'organisateurs de pèlerinage venant de l'étranger, et tout spécialement d'Espagne, d'Italie et des États-Unis. Voilà, les circonstances ont fait que c'est avec cela que le lien s'est noué davantage, selon les circonstances, mais beaucoup de Français aussi, et d'organismes français, de présidents, de directeurs de pèlerinage diocésains, présidents d'hospitalité qui étaient là aussi.
Parce que l'articulation, l'enjeu c'est là, c'est d'articuler correctement une certaine logistique ou du moins un aspect matériel d'un pèlerinage avec ce qui lui donne sens, c'est-à-dire le message de Lourdes, l'aspect pastoral ou spirituel du pèlerinage.
C'était très très important pour le recteur et pour moi que tout le monde perçoive que le curseur était d'abord placé sur ce paramètre-là. Et tout le reste, le matériel, l'organisation, l'intendance, les préoccupations financières légitimes, sont vraiment au service d'abord du sens du message de Lourdes, de l'organisation du pèlerinage, du bien-être des personnes, en particulier des pèlerins malades, handicapés, dans les accueils, mais aussi dans les lieux de célébration, dans les espaces de procession, etc., etc. Le matériel est au service du spirituel.
Voilà donc pour ces journées de Lourdes et ce 11 février. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur et on va parler synode à présent. L'Assemblée synodale européenne s'est déroulée à Prague le 6 février avec une intervention de la délégation française, donc ce lundi 6 février, pour expliquer les réactions au document continental en France. France grâce aux remontées qui ont été reçues des diocèses. Alors, le texte de cette intervention, il est disponible sur le site église.catholique.fr. On peut le lire, on doit le lire même. Hein. J'invite vraiment les auditeurs à se rendre sur le site. Je voudrais juste en lire un extrait, Monseigneur Mika, et puis vous faire réagir à cet extrait. Parmi les sujets importants, les prêtres, reconnaissant envers leur ministère, les fidèles souhaitent que l'on prenne soin des prêtres, qu'on leur donne de remettre le souci de l'évangélisation au cœur de leur mission, qu'on redonne sa priorité à la question des vocations dans l'Église. Le ministère presbytéral est un grand don de Dieu pour l'Église. Nous nous réjouissons que des personnes donnent leur vie avec joie au cœur de la communauté chrétienne, exerçant un ministère dont Dieu a besoin pour faire grandir son Église. La synodalité de l'Église nécessite également la reconnaissance des dons et des charismes de tout fidèle, l'égale dignité de chacun, en recherchant l'articulation symphonique des différentes vocations au sein de l'Église. Une priorité doit être donnée à la formation comme étant un élément structurel de la vie de tout chrétien. Voilà, c'est un extrait donc de cette intervention de la délégation française devant l'Assemblée synodale réunie à Prague le 6 février. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans cette intervention, mais dans l'extrait que je viens de lire, il y a une articulation entre le souci des prêtres et puis le souci aussi de la formation des laïcs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, nous éclairer sur ce passage-là ?
Alors, je trouve extrêmement intéressant que vous ayez repéré et retenu ce passage-là pour notre entretien. Dans ma préparation, dans ma lecture du texte, en effet, de la délégation française à la rencontre européenne du synode, j'avais numéroté 8 et 9 les passages que vous venez de lire sur 11 passages. Et donc, c'est très, très intéressant de repérer qu'en effet, ces deux sujets extrêmement importants, les prêtres d'un côté, les laïcs de l'autre et l'articulation des deux, dans le document, vient après d'autres sujets qui ont été mis en exergue et en lumière. Alors là, on arrive au cœur du texte. Dans quelque chose qui est un des éléments majeurs de l'enseignement du Concile Vatican II, qui présente l'Église comme sacrement du salut. L'Église est faite, c'est Paul VI qui disait ça, pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle. Alors Paul VI le disait dans son langage dans les années 60 et 70. Aujourd'hui, on parle de nouvelle évangélisation, mais en réalité, on dit toujours la même chose. L'Église est faite pour témoigner du Christ Sauveur. Voilà. Et elle en est le sacrement, c'est-à-dire le signe, et le signe efficace. Elle en est la parole, elle en est la visibilité. On parlait du 11 février, dans le message du pape François pour ce 11 février, il parle de l'Église comme étant une prophétie de l'humanité à venir. C'est toujours la même idée. L'Église est en effet le signe visible de ce que Dieu veut pour l'humanité et pour la terre. Bon. Donc l'Église, c'est l'ensemble du peuple des baptisés. L'ensemble des baptisés. Tout entier, peuple sacerdotal, dit la théologie, ça veut dire tout entier, habilité à parler à Dieu, à parler de Dieu. Tous les baptisés sont missionnaires de la bonne nouvelle. Tous les baptisés, c'est la vocation de tous. Mais pour que cela fonctionne, pour que l'Église soit vraiment l'Église du Christ, et qu'un ensemble de chrétiens soit vraiment témoin du Christ Sauveur, alors... Le Christ lui-même a institué les apôtres, parmi les apôtres Pierre, et les apôtres se sont donné des successeurs, qui se sont donné des collaborateurs, et ainsi le ministère ordonné a été structuré pour permettre à l'Église d'être ce qu'elle doit être, c'est-à-dire le corps du Christ qui témoigne de la vie plus forte que la mort, qui témoigne de la bonne nouvelle, de l'espérance, de la joie, de ce que Dieu promet et qu'on appelle le royaume des cieux. Voilà. Donc il faut des prêtres articulés au peuple de Dieu, au service du peuple de Dieu. J'ai été ordonné prêtre il y a bientôt 32 ans. Je peux témoigner que vraiment jamais, jamais, jamais une fois, je n'ai manqué de ce soutien des chrétiens avec qui j'ai vécu et travaillé, exercé mon ministère. J'ai toujours eu le sentiment que les gens Me soutenez, mais pas moi, Jean-Marc Mika, mais les prêtres, quoi, le prêtre que j'étais à leur service. Il me semble que vraiment les catholiques aiment leurs prêtres et soutiennent leurs prêtres. Après, les prêtres sont parfois, de leur côté, des porcs-épics. Nous sommes de vieux célibataires, parfois grincheux, qui avons un peu de mal à nous laisser approcher, nous laisser aimer aussi. Voilà. Et donc, si on est suffisamment à l'aise dans sa vie, dans son affectivité, dans son corps, dans son être, dans son ministère, une relation saine, d'amitié réelle, s'établit entre le pasteur et la communauté chrétienne dont il est le pasteur, et le prêtre ne manque pas de soutien. Vraiment. Alors, maintenant, on voit bien que nombre de prêtres traversent des périodes de difficulté, de crise, de solitude, de détresse. C'est en partie lié, je pense, à une crise de sens de la foi, de perte de la foi dans l'humanité en général, enfin dans nos sociétés occidentales en tout cas, de perte de foi. Du coup, le prêtre, s'il est sollicité seulement pour des prestations de service, mais pas dans la compréhension profonde du don qu'il a fait de sa vie pour que la communauté puisse vivre, dans une relation d'époux à épouse. Hein. Les textes de l'Église vont très très loin pour justifier le célibat sacerdotal, précisément, en utilisant cette image-là. Donc le prêtre donne son corps, son cœur, son âme à la communauté chrétienne qu'il va servir comme prêtre. Et si celle-ci, en retour, lui dit « mais on n'en demande pas tant, contente-toi de nous dire la messe et ça nous suffit », eh bien forcément, il n'y a pas le soutien dont il a besoin. Bon. Et je suis touché de constater que dans les équipes synodales, et ça a été un élément marquant dans notre propre diocèse ici, c'est un sujet qui est remonté fortement. Le souci de la santé des prêtres, mais la santé, vous voyez, la santé globale, pas simplement la santé, la fatigue ou que sais-je, mais le bien-être spirituel et humain des prêtres. Et je trouve qu'il y a là quelque chose de très très sain et qui est de bon augure pour la suite et sans doute pour la pastorale des vocations aussi.
C'est aussi lié du coup à la formation des laïcs. Des laïcs formés peuvent peut-être mieux aider, mieux collaborer avec le curé qui du coup peut se reposer un petit peu sur cette collaboration.
C'est tout à fait exact. J'ai toujours regretté que les services de formation des prêtres d'un côté et de formation des laïcs de l'autre soient des services qui ne fonctionnent pas conjointement. J'ai eu la chance, quand j'étais à Toulouse, d'être au séminaire à la formation des prêtres et au diocèse à la formation des laïcs appelés à constituer des EAP, des paroisses, donc. Et j'appelais de tous mes voeux qu'il y ait des modules de formation communes, que les uns et les autres se forment en même temps à la même chose, pour se façonner une âme commune. Et je ne désespère pas d'y arriver ici, d'une manière ou d'une autre.
Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Marc Mika. Alors, un mot sur notre chère Sainte Bernadette que nous fêtons cette semaine, donc ce 18 février. C'est important aussi, cette image de notre Sainte Bigourdane, notre Sainte Lourdaise, qui est un modèle, alors, pour les jeunes, hein, faut pas oublier que Bernadette était toute jeune, 14 ans quand elle a vu la Sainte Vierge dans ce rocher de Massabielle. C'est un modèle pour notre jeunesse qui se prépare d'ailleurs à partir au JMJ, mais c'est un modèle pour tous les chrétiens de Bigorre et de bien plus loin.
Pour utiliser une expression de mon père spirituel lorsque j'étais au séminaire, dans mon panthéon personnel et portatif, pour désigner les saints qui comptaient pour lui, bon, eh bien, dans mon panthéon personnel et portatif, Bernadette occupe une place de choix depuis extrêmement longtemps, depuis mon adolescence, et je suis très très heureux de la retrouver ici. J'ai envie de dire que Bernadette est à Lourdes ce que la Vierge est à l'Église, à la fois présente et discrètement effacée, mais présente. Et voilà, outre sa personnalité propre aux gens de chez nous, et depuis que je suis là, je croise des gens qui sans doute témoignent d'un tempérament commun, et outre cette personnalité que j'apprécie, que j'aime beaucoup, je trouve que cette figure et la mission que Dieu lui a confiée finalement, et la manière dont elle l'a vécue jusqu'à sa mort, et tout à fait magnifique. Et pour moi, elle me rappelle la figure de Jean-Baptiste, qui est un modèle depuis que je suis prêtre, c'est-à-dire qu'il prépare les chemins du Seigneur, il s'engage corps et âme là-dedans, il donne toute sa vie pour ça, et puis le jour où le Christ paraît, il s'efface pour ne pas faire écran entre ceux dont il a préparé le cœur à cette rencontre et le Christ qui est Dieu. Et Bernadette fait pareil. Une fois qu'elle a accompli sa mission, elle s'efface. Et la Vierge fait pareil. Une fois qu'elle a accompli sa mission, elle s'efface. Mais elle ne s'efface pas complètement, elle reste présente. Et j'aime beaucoup Bernadette pour ça.
Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Marc Mika. Très bonne semaine et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup, bonne semaine à tous.